la Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
Bonjour, nous sommes le jeudi 25 avril et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Un nouveau nid pour accueillir les startups biotech s'installe à Wavre, des startups dopées à l'intelligence artificielle. Alors que s'ouvre le salon automobile de Pékin, le fabricant de semi-conducteurs pour le secteur auto Melexis cartonne en bourse. Nous verrons pourquoi. La Wallonie simplifie la procédure pour obtenir un permis d'environnement. C'était une vieille demande des entreprises qui se heurtent à des situations parfois kafkaïennes. Je suis Laurent Fabry, bienvenue dans le brief.
Le brief, cette info, dès 7h.
Une fabrique de start-up biotech vient de naître à Wavre. C'est un nouvel outil novateur pour l'écosystème wallon des sciences du vivant, un venture studio biotech qui investit dans la recherche de médicaments avec l'intelligence artificielle. Le but est de favoriser l'émergence des start-up dopées à l'IA dans le domaine de la santé en particulier. L'instrument est unique en Belgique et en Europe. Il s'inscrit dans le prolongement du parc Quantum Biospace, un village d'innovation de 70 000 m² dédié au développement biopharmaceutique de pointe qui doit voir le jour à Wavre en 2025. L'ancienne directrice du bioparc de Gosselies, Florence Bosco, prend la tête de ce studio. Je lui ai demandé en quoi l'IA allait changer les sciences du vivant.
En fait, il y a aujourd'hui un grand momentum pour l'intelligence artificielle dans l'industrie biopharma parce que depuis 10 ans, il y a eu une accumulation d'innovations. On a maintenant des big data en biologie humaine qu'on n'avait pas auparavant. C'est une grande transformation dans l'industrie qui est en train de se produire grâce à l'IA. C'est un changement de paradigme sur la façon de faire du drug discovery et c'est aussi la première fois qu'on peut s'approcher de prendre l'homme comme modèle pour l'homme dans le développement de médicaments. Donc, c'est extrêmement prometteur. Et on a besoin d'accélérer le mouvement ici en Europe et en Belgique en particulier. Et c'est comme ça que le projet est né aussi, en se donnant la mission d'être cet accélérateur de la transformation ici en Belgique. Et ce projet se veut être un projet belge.
Concrètement, ce studio, il permettra d'accélérer en fait la découverte de médicaments.
L'utilisation de l'intelligence artificielle dans la R&D biopharma reste une pratique émergente, c'est-à-dire elle n'est pas encore généralisée. Cependant, les pionniers ont démarré il y a 10 ans. Et ceux-là, aujourd'hui, ont pu accumuler et publier des données. Et donc, ils ont montré qu'il y avait des gains importants en temps et en coût de développement de médicaments. Donc, on a divisé par 2, voire par 3, le temps pour arriver à un candidat médicament préclinique et aussi le coût pour arriver à ce stade de développement. Et ça, c'est déjà un énorme gain pour l'industrie et pour le système de santé.
Les élections approchent et il y a encore pas mal de chantiers à boucler en Wallonie, notamment la simplification du permis d'environnement. Et là, ça avance. Parce que remplir une demande de permis dans le sud du pays s'apparente souvent à un vrai défi kafkaïen. Dans le dédale des démarches administratives, la procédure peut prendre des mois. L'entreprise de matériaux de construction Knauf Insulation a la particularité de se trouver à cheval sur la frontière linguistique entre Visée et les Fourons. Le directeur Olivier Louchon a voulu agrandir son usine il y a 3 ans. Il se souvient des procédures pour demander un permis d'urbanisme dans les deux régions.
En Flandre, tout était numérisé. Donc on a pu envoyer les plans sur un site internet. Et alors en Wallonie, je me suis retrouvé à devoir imprimer tout le dossier 25 ou 30 fois. Donc j'avais plusieurs caisses sur mon bureau à signer. Ça m'a pris quasi une heure à signer tous les documents. Et puis après, toute la procédure est restée une procédure, je vais dire papier, avec des échanges de recommandés chaque fois qu'il y avait une question. Résultat, du côté Flandre, ben, ça a mis 3 mois. Du côté Wallon, ça a mis 9 mois par le fait que la procédure n'était pas numérisée.
Alors, vous l'aurez compris, la modernisation du permis d'environnement est très attendue par les entrepreneurs. La ministre en charge, Céline Tellier, promet notamment plus de stabilité. Les permis avaient jusqu'à présent une durée de vie de 20 ans. Désormais, ils seront liés à la durée d'exploitation de l'entreprise. La nouvelle législation devrait aussi être plus lisible. Les obligations liées au permis seront listées dans une checklist très claire. Pour la numérisation, par contre, le gouvernement vise mi-2025, un délai un peu long qui a de quoi exaspérer les entrepreneurs. Ça y est, le top départ est donné pour remplir votre déclaration fiscale. Il suffit de vous connecter sur la plateforme du SPF Finance, MyMinFin, pour déclarer vos revenus 2023. Vous avez jusqu'au 15 juillet pour remplir votre devoir fiscal, mais si vous préférez la bonne vieille version papier, ce délai est raccourci au 30 juin. Ça, c'est pour les dossiers classiques. Pour les déclarations plus complexes, comme celle des dirigeants d'entreprise, par exemple, vous avez jusqu'au 16 octobre pour déclarer vos revenus. Et si l'administratif n'est pas vraiment votre tasse de thé, vous pouvez toujours appeler le SPF Finance à la rescousse. Cette année, 4 millions de propositions de déclaration simplifiées ont été envoyées aux contribuables. C'est un peu plus que l'année passée. Le salon automobile de Pékin démarre ce jeudi et tout le monde s'y presse. Du côté des européennes, il y a Audi, BMW, Mercedes-Benz ou encore Volkswagen. Mais les constructeurs chinois sont évidemment là en nombre, comme Zeekr, BYD ou encore Chery. La concurrence en Chine est féroce, notamment dans les véhicules électriques. Le jeu est très tendu pour s'emparer du plus grand marché du monde. Benjamin Evrard, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous en connaissez un rayon sur les voitures. Les constructeurs européens ne sont plus aussi bienvenus qu'avant, en fait, en Chine.
Alors, en Chine, on sait que arriver sur le marché chinois avec des véhicules occidentaux, ça demande pas mal de choses. On peut avoir des droits d'importation pour un certain nombre de voitures, mais en général, comment ça se passe? Ça se passe avec l'implantation locale d'une usine, avec un partenaire local. Impossible d'y aller tout seul. Et donc, ce marché est assez fermé d'une certaine manière, mais d'un autre côté, a fait les très belles années des constructeurs occidentaux qui ont gagné beaucoup d'argent pendant des années en Chine.
Par contre, en Europe, les groupes chinois sont de plus en plus dans le viseur des autorités européennes qui enquêtent sur du dumping.
Alors, en Europe, la question, c'est de savoir maintenant si cette enquête européenne pour des pratiques de dumping supposées des constructeurs chinois va aboutir, et si elle va aboutir, elle va aboutir comment? Est-ce qu'il y aura des sanctions, des tarifs douaniers plus importants? Donc voilà, ça c'est un peu ce qui plane au-dessus du secteur. Après, on sait que ce genre de démarche peut prendre du temps, et on sait aussi que dans le même temps, l'Europe est tentée de favoriser aussi son industrie, par exemple en donnant des subsides à des producteurs de cellules locaux. Donc voilà, c'est une donne compliquée qui n'est pas facile à manœuvrer. C'est d'autant plus compliqué pour les constructeurs européens qui ne veulent pas non plus qu'on leur ferme le marché chinois parce que c'est un marché très important, le plus important au monde. Et donc, les tarifs douaniers leur font aussi peur aux constructeurs occidentaux.
Alors en Europe, Benjamin, est-ce qu'on peut s'attendre à voir de plus en plus de voitures chinoises circuler dans nos rues?
Mais donc, on en parle beaucoup de l'arrivée des voitures chinoises en Europe. Pas mal de marques sont très ambitieuses pour nos pays. Alors aujourd'hui, la marque qui a le plus de succès ou donc qui a immatriculé le plus de voitures en Europe, c'est MG. MG, cette marque anglaise qui a été rachetée par le groupe SAIC, le groupe chinois SAIC, il y a une petite vingtaine d'années. Et eux, ils sont là depuis quelques années avec une série de voitures dans tous les types de motorisation. Et ils commencent à faire de sérieux volumes. Et ils ont dépassé les 120 000 voitures déjà en Europe l'année passée. Ils comptent aller à plus de 160 000 cette année. Évidemment, l'autre grand acteur que tout le monde attend, c'est BYD. BYD qui est au coude à coude dans les véhicules électriques avec Tesla et qui est très, très ambitieux et qui a des objectifs de croissance très, très grands pour la vente de véhicules à l'étranger. Même si à ce stade, BYD, c'est d'abord une entreprise qui vend des véhicules en Chine, mais avec, comme je l'ai dit, une ambition très grande pour vendre plus de véhicules partout dans le monde.
Merci Benjamin. Alors en parlant de voitures justement, Melexis explose littéralement en bourse. Melexis, c'est le spécialiste des puces et des capteurs pour l'automobile. Il a bouclé sa meilleure séance de son histoire à Bruxelles hier. L'action a bondi de 17%. Mais bon, sur l'année, le bilan de Melexis reste négatif à moins 14%. Mais alors que s'est-il passé hier? Eh bien, il a suffi d'une petite phrase du CEO Marc Biron pour mettre le feu à l'action. Il a annoncé que les corrections des stocks des derniers trimestres étaient terminées. Mais cela a suffi à rassurer les investisseurs. D'autant que Melexis a atteint ses objectifs en ce début d'année. L'entreprise anticipe des revenus d'environ 1 milliard d'euros pour 2024. Il faut dire que le contexte est particulièrement porteur. Melexis profite de la demande toujours plus grande de semi-conducteurs automobiles pour électrifier le secteur. Attention toutefois, certains analystes pointent le risque de pression sur les prix durant les prochains mois. À Wall Street, c'est le groupe Meta qui était en vedette. La maison mère de Facebook et d'Instagram a publié des résultats franchement bons, mais l'augmentation des dépenses dans l'intelligence artificielle inquiète les marchés. Son action a chuté de 15% lors des échanges électroniques après la clôture de Wall Street. La bourse de Tokyo lâchait du lest en matinée, prudente avant les indicateurs macroéconomiques américains importants et une décision monétaire de la Banque du Japon vendredi. Vous avez prévu de flâner à Venise bientôt ? Vous n'êtes certainement pas le seul. La cité des Doges est victime de son succès depuis de nombreuses années et endiguer le tourisme de masse représente un véritable défi. Alors dès ce jeudi, les touristes devront s'acquitter d'une taxe de 5 euros par personne à leur entrée dans la ville. Ils peuvent la payer en ligne et ce système ne concerne pour l'instant que les visiteurs d'une seule journée. Alors à ce stade, il s'agit d'un test appliqué pendant 29 jours en 2024. La mesure est généralement bien accueillie par les résidents, plutôt soulagés, mais la réaction est évidemment beaucoup plus mitigée du côté des tour opérateurs locaux. Mais l'urgence est là. Venise comptait 175 000 résidents dans les années 50. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 50 000. Le touriste a en quelque sorte remplacé l'habitant. Et pour le maire Luigi Brugnaro, l'objectif principal, c'est de permettre à la ville de redevenir viable. Une semaine déjà que le carrefour Léonard est fermé en direction de Waterloo, mais les embouteillages à la sortie de Bruxelles sont finalement moins chaotiques que prévu. Mais ces difficultés au sud-est de la capitale et plus généralement les travaux qui rythment la vie de l'agglomération sont-ils de nature à faire fuir les entreprises ? La Flandre cherche-t-elle à étouffer Bruxelles ? C'est pour répondre à ces questions que nous vous proposons un nouveau brief spécial. Guillaume Cordeau a rassemblé Pauline de Glume, journaliste spécialiste de Bruxelles à l'Écho, Antoine de Bormann, directeur général de Perspective Brussels, et Patrick Bissiari, économiste à la Banque nationale de Belgique. Justement, c'est lui que je vous propose d'écouter. Il explique pourquoi des mécanismes de concertation sont essentiels entre la région de Bruxelles-Capitale et ses voisins.
Alors, la région de Bruxelles-Capitale, son PIB a continué à croître, mais très faiblement quand on le compare par rapport aux autres régions d'Europe et sur une période de 20 ou de 25 ans. Par contre, dans la périphérie, là, on a un développement très important. Donc, ça veut dire que quelque part, on peut penser qu'il peut y avoir des intérêts à essayer de favoriser un développement d'infrastructures, une planification d'aménagement du territoire qui soit pensée à une échelle plus large que la seule région de Bruxelles-Capitale. Et ça, c'est quelque chose que nous avons en particulier trouvé dans les études de l'OCDE, dont une étude récente qui a été publiée et qui pointait l'intérêt de développer une métropole qui était prévue dans la sixième réforme de l'État, mais qui n'a pas été mise en œuvre, faute d'accords de coopération signés entre les différentes régions du pays.
Alors retrouvez ce brief spécial sur le carrefour Léonard et les conséquences des travaux sur les entreprises sur vos différentes plateformes d'écoute, notre application et notre site. Toujours pas de fumée blanche chez Bpost, la grève semble se poursuivre, la direction et les syndicats ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'épineuse question de la distribution des journaux. La distribution du courrier sera donc encore perturbée aujourd'hui en Wallonie et à Bruxelles. Merci à Andy Noirez qui était à la préparation de ce brief. Bonne journée et à demain.
À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre. Plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.